ne sera rien. Rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sonde Femme Radio Zone. Il pleut, mais la lune est dans vos oreilles sur 93.8, comme tous les mercredis à partir de 18h30. Les mercredis sur Radio Zone, c'est Onde Femme avec Remi Ménage et la pleine lune. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles de la pleine lune, suivies des coups de cœur de Marjolaine. À tout de suite. Radio Pleine Lune en 3.8 MHz, Sonde Femme Radio Zone, nos nouvelles. Au Bangladesh, l'opposante Hasina Wajed devient première ministre du Bangladesh. Deux semaines après les élections, la leader de la Ligue Awami a été officiellement investie premier ministre, devenant la seconde femme à diriger ce pays musulman de 120 millions d'habitants. Âgée de 49 ans, la fille du père de la nation, Sheikh Mujibur Rahman, le premier chef du gouvernement du Bangladesh indépendant, a prêté serment en compagnie des 19 membres de son cabinet. Pour la Ligue Awami, c'est le retour au pouvoir après une traversée du désert de 21 ans. Avant de prendre ses fonctions, Hasina Wajed avait indiqué qu'elle entendait gouverner par consensus et consulter l'opposition. Mais déjà, le parti nationaliste du Bangladesh de sa rivale, Khaleda Zia, a indiqué qu'il saisirait la justice pour contester les résultats. En attendant, ce sont les islamistes qui ont perdu les élections. En Birmanie, la rue défie la junte. Chaque semaine, des milliers de manifestants sont sous les fenêtres de l'opposante Aung San Suu Kyi. Chaque week-end, plusieurs milliers de Birmans viennent écouter à 16h tapante Aung San Suu Kyi parler derrière la grille de sa résidence. Assis ou debout sur le bas-côté, ils étaient à nouveau 4000 samedi et dimanche à défier le Conseil de restauration de la loi et de l'ordre, le SLORC, c'est-à-dire la junte militaire au pouvoir, qui menace depuis deux semaines d'interdire la Ligue nationale pour la démocratie, le parti que dirige Aung San Suu Kyi. Combien de temps encore la jeune femme prix Nobel de la paix 1991 qui a bénéficié d'une fin d'assignation à résidence en juillet dernier pourra-t-elle continuer de défier impunément la trentaine de généraux qui tirent les ficelles du pouvoir? Quelques semaines, quelques mois, personne ne le sait. En tout cas, elle ne se prive pas de dénoncer les méthodes du SLORC qui a contraint la semaine dernière 5 députés de la Ligue nationale à démissionner en faisant pression sur leur famille. Depuis que le pouvoir a averti qu'il interdirait ses rassemblements hebdomadaires s'il venait à gêner la circulation, un service d'ordre de la Ligue nationale démocratique composé de jeunes filles portant des uniformes brun clair et des chapeaux de bambou conique serre les rangs pour empêcher la foule d'envahir l'avenue qui fait face à la grille. Aung San Suu Kyi, la secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie, vit toujours dans sa maison familiale qui lui a servi de prison pendant 6 ans. Elle a été transformée en quartier général de la Ligue, mais depuis la fin de son assignation à résidence, la prix Nobel de la paix ne dispose toujours que d'une liberté de mouvement très relative. Les agents du Conseil de restauration de la loi et de l'ordre empêche tout visiteur de venir. Ils doivent toujours marquer, en tout cas tous les visiteurs qui viennent doivent s'inscrire sur un cahier tenu très étroitement à l'œil par les agents de la SLORC. « En Indonésie aussi, des affrontements font une centaine de blessés lors d'une manifestation du Parti démocratique dirigée par la fille du président Sukarno qui tente de conserver l'indépendance de sa formation. Une lutte est engagée en Indonésie pour le contrôle du Parti démocratique entre l'actuelle dirigeante de cette formation, Megawati Sukarno-Putri, fille du défunt président Sukarno, le père de l'indépendance, renversé à la faveur du coup d'État anticommuniste de 1965, et le régime du président Suharto, au pouvoir depuis 1966. La première souhaite devenir indépendante du pouvoir en place. La répression par la force de l'ordre, jeudi 20 juin à Jakarta, d'une manifestation du parti, a fait plus d'une centaine de blessés. En Allemagne, la visite du pape a fait pas mal de bruit et pas mal de remous. Plusieurs manifestations ont eu lieu. Premièrement, un grand rassemblement des catholiques critiques qui avait lancé à l'automne dernier un manifeste intitulé « Nous sommes l'Église » qui avait rassemblé la signature de plus d'1,5 million de catholiques allemands qui s'élevaient contre le célibat des prêtres, pour l'ordination des femmes ou la révalorisation du rôle des laïcs dans l'Église. De même, ils demandaient aussi une position plus claire sur la question de l'avortement, de la contraception et de la lutte contre le sida. Une autre manifestation a réuni de son côté tous les féministes, les homosexuels et tous les athées qui se sont mobilisés contre cette venue du pape. On a deux femmes ont été nommées, se sont elles-mêmes proclamées les papesses. Il s'agit d'une lesbienne noire américaine et d'une prostituée. Le concile anti-pape s'est également manifesté lors du cortège du pape dans sa papa mobile, qui a été allègrement arrosé de tomates pourries et de pas très frais. En Russie, Maria Kirbasova, présidente du comité des mères de soldats, donne du fil à retordre à Boris Eltsine. Sous sa direction, le comité a déjà introduit dans les montagnes caucasiennes, depuis le début de l'intervention russe dans la République indépendantiste, près de 1000 mamans afin qu'elles récupèrent leurs rejetons. L'action de ce comité est en effet d'empêcher que les enfants, les fils, aillent se faire tuer au service militaire et en Tchétchénie en particulier. Si votre fils est là-bas, vous n'avez qu'à vous y rendre vous-même, dit-elle. S'il y meurt aussi. C'est ce qu'elle répond sans embâge aux mères qui ont peur. Manière de les responsabiliser, de détruire la psychologie de troupeau. En Russie, estime-t-elle, les femmes sont les plus aptes à lutter. Les hommes soviétiques, on ne peut rien en tirer parce qu'ils ont été dressés à l'armée. Fin de citation. En tout cas, aujourd'hui, sous la présidence de Boris Eltsine et devant un parlement à majorité communiste, les maires ne sont plus tellement écoutés par les institutions qu'elles qualifient de criminelles. D'ailleurs, pour l'élection présidentielle, Maria Kirbasova a refusé de voter, tant pour le président sortant, un responsable d'avoir déclenché la guerre en Tchétchénie, que pour les communistes. « Aux États-Unis, les cours d'écologie fréquents dans les classes américaines suscitent la colère d'un nombre croissant de parents conservateurs. Ces programmes endoctrinent les enfants, disent-ils, contre l'industrie et poussent à une adoration de la nature qui est rien moins que satanique. L'affrontement entre écologistes et grandes entreprises a désormais lieu dans les écoles. Sur ce nouveau champ de bataille idéologique, autour du thème de la protection de l'environnement, les adversaires se disputent le cœur et l'esprit des jeunes Américains. Des organisations de la droite chrétienne, certains groupes conservateurs, accusent l'enseignement de l'écologie d'avoir donné naissance à une génération d'éco-idolâtres, endoctrinés par des militants verts qui se contentent d'invoquer inlassablement des mantras du genre « sauvons le monde » ou « c'est vert, donc c'est beau », sans saisir toutes les facettes du problème, disent-ils. Ces militants inculqueraient aux jeunes, je cite, « mythes et sensiblerie » en faisant de la désinformation. Enseigner l'écologie à l'école primaire, c'est y introduire la politique, c'est tout bonnement de l'endoctrinement, affirme le National Center for Public Policy Research, un think tank conservateur. Notre principal grief, c'est que cet enseignement n'est pas objectif et même, comme on l'a vu avec la campagne antinucléaire des années 80, truffé de contre-vérités de nature à effrayer les enfants. Fin de citation. Les associations anti-écologistes, souvent proches de la droite religieuse, accusent les écoles de promouvoir le satanisme, de mentir sur les risques de réchauffement de la planète, de destruction de la couche d'ozone, voire de compromettre la prospérité économique des communautés dans lesquelles elles sont implantées en se montrant alarmistes sur les effets de la pollution industrielle. L'écologie se généralise d'ailleurs dans les programmes scolaires depuis le début des années 70. 30 États ont déjà rendu cette matière obligatoire dans les écoles. L'affrontement est en train de se durcir. Dans l'Arizona, une loi rendant obligatoire l'enseignement de l'écologie a été abrogée. Les fonds alloués à cet effet retirés. Les enseignants sont tenus de ne pas faire preuve d'activisme, c'est-à-dire de dire que tout va bien. Désormais, les écoliers n'iront plus planter d'arbres, ne récolteront plus d'argent pour sauver les baleines, n'enverront plus de lettres au Congrès pour protester contre les industries polluantes ou la destruction de la forêt tropicale. Voilà qui les rendra encore plus citoyens. D'autres États, notamment le Texas, la Floride et le Wisconsin, redoutant que les enfants du primaire ne dansent sur fond de hurlements de loups et de chants de baleines, se préparent à adopter des mesures similaires. En Floride, les autorités scolaires se prononceront sur l'interdiction éventuelle d'un manuel écologie en effet, le White Wise, un candidat au conseil local aux affaires scolaires, reproche aux livres de présenter le réchauffement de la planète comme un fait et de citer à ce propos les Nations Unies comme une source. Quelle horreur! Les adversaires de l'écologie reçoivent le soutien d'associations comme Heritage Foundation, un groupe de réflexion de Washington qui a publié récemment un rapport intitulé « Little Green Lies », les petits mensonges verts. L'auteur dresse la liste des prétendus écomythes du genre « il faut tout recycler » ou « il y a trop de déchets ». Quant aux pluies acides riches en azote, elles seraient, selon lui, bénéfiques aux forêts. Dans la frange la plus extrémiste du mouvement anti-vert se profilent certains éléments de la droite chrétienne selon qui les écologistes répandent des superstitions. Ainsi, dans l'Oklahoma, un groupe chrétien intégriste a exigé le retrait des écoles primaires d'un livre vantant les beautés de la nature, l'accusant de promouvoir le mysticisme oriental, l'adoration de la terre. Le fer de lance de l'offensive de la droite chrétienne est l'association Citizen for Excellence in Education, qui avec ses 1200 antennes dans le pays a contribué à faire élire plus de 4000 chrétiens fondamentalistes dans des conseils locaux aux affaires scolaires. En Allemagne, le Bundestag a voté l'allongement des heures d'ouverture des magasins, et cela malgré l'opposition très virulente d'une partie de la gauche, des syndicats et surtout du personnel concerné, c'est-à-dire des vendeuses. La nouvelle loi est l'aboutissement d'un vif débat opposant depuis des années partisans et adversaires de la déréglementation en Allemagne. Le paysage urbain, en tout cas, risque de se modifier à partir de novembre prochain. On pourra faire ses achats jusqu'à 20 heures en semaine, 16 heures le samedi au lieu de 18 heures en semaine et 14 heures le samedi. Quant aux boulangeries, elles seront ouvertes le dimanche, ce qui réjouit bien sûr les vendeuses. En Espagne, la droite a tout de suite montré sa figure en proposant de réintroduire la religion à l'école. Du coup, la guerre de religion se rallume. La religion pourrait donc redevenir une matière obligatoire à l'école. Premier débat animant l'Espagne depuis l'arrivée de la droite au pouvoir. Faut-il imposer aux élèves des cours de religion, d'éthique, de morale, même si les parents les refusent, comme la Constitution leur en donne le droit? L'Église catholique le souhaite, bien sûr. Le gouvernement affirme qu'une étude est en cours. En France, les homosexuels ont défilé pour la Gay Pride. Ils avaient annoncé une manifestation monstrueuse. Ils ont tenu leur promesse puisque plus de 150 000 manifestants de la Lesbian and Gay Pride ont marché samedi dernier à Paris. Heureux comme un homosexuel en France, pas si sûr. S'ils sont tolérés, les homosexuels sont loin d'être connus. En 92, le pouvoir socialiste à l'époque avait enterré la création d'un contrat d'union civile. Cette revendication ressurgit aujourd'hui sous une autre appellation. C'est le contrat d'union sociale, mot d'ordre politique de la marche de samedi. Toute personne, si elles sont attachées l'une à l'autre, doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits que n'importe qui. S'il était voté par le Parlement, ce contrat, le CUS, permettrait aux couples homosexuels et hétérosexuels non mariés de ne pas payer davantage d'impôts que les couples mariés, de pouvoir, en cas de décès de l'un des membres du couple, conserver le bail de l'appartement, d'hériter, etc. Ce qui était aussi nouveau cette année, non seulement par le nombre, mais c'est que aussi il y a eu des manifestations partout. En effet, typiquement parisien jusqu'alors, le mouvement gay s'étend à la province. Alors que Paris, il y a 2 ans, était la seule ville où avait lieu une manifestation de la Gay Pride. L'an dernier, déjà, il y en avait eu à Rennes et à Montpellier et à Marseille et à Toulouse. Cette année, il y a eu encore Aix-en-Provence, Nantes, Cannes, Bordeaux, Lyon, Lille, étaient donc de la partie en défilant un de ces samedis du mois de juin. 1 000, 2 000 personnes ont manifesté dans les villes de province où ont déjà lieu des manifestations de la Gay Pride, marche clôturant une série d'expositions, de débats et de conférences. D'autre part, il faut annoncer que Paris doit accueillir l'an prochain l'Euro Pride, manifestation à l'échelle européenne qui a déjà été organisée à Berlin et Amsterdam, qui aura lieu cette année à Copenhague le 29 juin. 200 000 personnes sont attendues donc l'année prochaine pour l'Euro Pride. Toujours d'ailleurs au sujet de la question homosexuelle. En France, Le Monde a réalisé un sondage grâce à l'IFOP qui indique que si 46% des Français jugent plutôt choquantes les manifestations d'homosexuels, ils sont 65% à estimer que l'homosexualité est une manière comme une autre de vivre sa sexualité et 48% des Français estiment que les couples homosexuels doivent pouvoir se marier ou en tout cas vivre comme ils le désirent et avec les mêmes droits que les hétérosexuels. Par ailleurs, j'aimerais vous citer plusieurs livres qui sont sortis sur la question et un livre surtout que je trouve intéressant qui pose la question des homosexuels masculins face aux femmes. Quel lien y a-t-il entre homosexuels et les femmes ? Qu'elles soient mères, sœurs, amies, épouses d'homosexuels, il s'agit souvent de relations difficiles, en tout cas jamais indifférentes. Bien sûr, si l'homosexualité gêne les hommes, elle vexe souvent les femmes. C'est le premier sentiment qui peut être suscité quand on tombe amoureux d'un homme et qu'on finit par apprendre qu'il est homosexuel et qu'il ne s'intéresse pas vraiment à vous. Et puis aussi, quand on est mère, ce n'est pas toujours facile d'apprendre l'homosexualité de son fils. Viviane Moussler, psychanalyste, a donc réuni plusieurs témoignages, à la fois à partir de sa propre expérience, puisqu'elle a eu une longue amitié avec un homosexuel, et puis à travers lui, elle a connu plusieurs homosexuels qui ont témoigné, et c'est dans ce contexte qu'elle a rencontré ceux qui livrent leurs témoignages quant à la place qu'ils laissent aux femmes dans leur vie. À noter que les filles, jeunes en particulier, disent apprécier un ami homosexuel, un regard qui n'agresse pas, une sorte d'amour-amitié qui les fait rêver, et qui surtout diffère le moment pour elles de devenir des femmes. Ce livre, Les femmes et les homosexuels, la fausse indifférence, par Virginie Mousselaire, est publié aux éditions Calmann Lévy. En France, toujours, si Moulinex a libéré les femmes, il a en tout cas licencié ses employés. Et les salariés de Moulinex restent sur le carreau. Le plan de restructuration procuration assez musclée de Moulinès, puisqu'il a annoncé la fermeture de ses usines avec le licenciement de plus de 300 personnes sur 2000 en France, a donc laissé les salariés assez en colère, puisque rien ne leur avait été annoncé, surtout près de l'usine d'Argentin, ou dans l'Orne, où plusieurs fois les salariés se sont réunis, se sont rassemblés devant l'usine et appellent à une manifestation d'ici la fin de la semaine. Il faut savoir que si Moulinex est venu libérer la femme à Argentin en 1958, maintenant, donc, il laisse la population sur le carreau, la population d'ailleurs qui s'est réunie avec les salariés de l'entreprise pour les soutenir. La moyenne d'âge du personnel aux deux tiers féminin est de 43 ans, donc 15 ans de présence dans l'entreprise. Beaucoup de ces femmes sont seules, pratiquement impossibles à caser sur le marché du travail, avec des enfants à charge, souvent chômeurs. Le salaire moyen à la production est de 5 700 francs par mois. En France toujours, au congrès du parti de l'UDF, on a essayé de parler des femmes. Lors du congrès de l'UDF, le président Léotard a appelé, je cite, à la modestie des hommes politiques, souhaité en plus la nécessaire limitation du cumul des fonctions et promis que, je cite, c'est sans condescendance ni désinvolture que l'UDF s'intéressera désormais à la place des femmes dans la société. Ouf, on est content. Ce serait en effet un progrès, car si les responsables de l'UDF semblent convaincus que c'est sur les problèmes de société qu'ils pourraient renouer avec une opinion volatile, la base hésite. Quand ainsi le ministre du budget UDF a risqué une pudique allusion à la Lesbian and Gay Pride qui a lieu à Paris, en se disant « il faut qu'on s'intéresse aux nouvelles manières de vivre », personne n'a bronché. Par contre, quand il s'est proposé de restaurer les responsabilités des familles, alors là, il a été ovationné. Il en est allé de même au propos des femmes. Deux intervenantes plaidant pour une meilleure intégration des femmes à l'UDF ont fait ricaner l'assistance, à tel point que Simone Veil, ancienne ministre, n'a pas apprécié. S'emparant du micro, l'ancienne ministre de la Santé a passé un savon à tout le monde. Il n'y a pas lieu de rire ou de plaisanter, c'est un sujet extrêmement sérieux. Les assemblées sont de plus en plus déconnectées des réalités de ce pays. Je vous mets en garde. Le tiers de la salle a applaudi. Quant au reste, ils ont fait l'amour. Si les responsables de l'UDF sont vraiment convaincus que la refondation de leur formation passe par une plus grande place faite aux femmes, ils ont du travail à faire devant eux. En Suisse, le comité international de la Croix-Rouge met sur à pied Liliane Ichtenegger, l'ancienne candidate déçue au Conseil fédéral de 83, qui fait partie du comité de la Croix-Rouge internationale, avait en tout cas fait savoir que David de Pury, l'homme du célèbre rapport « Le livre blanc pour un néolibéralisme des plus féroces » pourrait remplacer Cornelio Somaruga à la tête du CICR. Liliane Ichtenegger, qui était absolument révoltée qu'un homme qui a une telle vision de la société et des problèmes de la société puisse trouver une place à la Croix-Rouge, avait donc commis cette indiscrétion qui lui coûte aujourd'hui sa place. Elle devra démissionner du Conseil de la Croix-Rouge. Rappelons que c'est le 7 décembre 1983 que Liliane Ichtenegger, candidate officielle du Parti socialiste au Conseil fédéral, avait raté son entrée. La droite du Parlement lui avait préféré le seul roi, Otto Stich, élu donc par 120 voix contre 90, à Liliane jugée trop proche d'Helmut Oberer et pas assez bien, en tout cas. Il est clair, en tout cas, que cet échec de Liliane Ichtenegger avait cependant provoqué une telle déception dans les rangs des Suisses qu'il est aujourd'hui admis que c'est son éviction qui a définitivement ouvert les portes du Conseil fédéral aux femmes. On en a beaucoup parlé. La nouvelle loi sur l'égalité en Suisse va entrer en vigueur dès le début juillet. Comment faire valoir ses droits dans le monde du travail? Une semaine avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'égalité, le Bureau fédéral de l'égalité à Berne publie un vade-mecum avec des cas concrets et des commentaires. Pour aider les femmes à faire valoir leurs droits dans le monde du travail, le Bureau a donc publié une brochure gratuite. La nouvelle loi fédérale sur l'égalité entre en vigueur le 1er juillet. Elle vise à réaliser l'égalité entre hommes et femmes dans les rapports de travail. Elle concrétise finalement l'article constitutionnel de 81. La brochure s'intitule « L'égalité dans la vie professionnelle ». Elle présente une dizaine d'exemples concrets et explique comment procéder pour faire valoir ses droits. La personne, homme ou femme, qui s'estime lésée pourra donc s'adresser aux tribunaux pour faire cesser cette discrimination ou exiger des dommages et intérêts. Il lui suffira de rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination. Ce sera l'employeur de prouver le contraire. Par ailleurs, les syndicats et les organisations féminines auront le droit d'agir en justice en leur propre nom. Cette action devra toutefois avoir un caractère exemplaire. Ce sera notamment le cas lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un grand nombre de personnes. Toujours en Suisse, en matière d'avortement, les femmes demandent une loi adaptée à la pratique. L'initiative populaire de 71 a certes ouvert la voie à une pratique libérale, mais la loi de 42 restrictive est toujours en vigueur. La situation hypocrite qui prévaut en matière d'avortement doit donc cesser. La loi doit être adaptée à la pratique libérale en cours et les femmes affranchies de la tutelle des médecins, et c'est ce qu'exige le groupe de travail Interruption de grossesse, 25 ans après l'initiative pour la libéralisation de l'avortement. Cette initiative en 71 a certes ouvert la voie à une pratique libérale dans l'interruption de grossesse dans la plupart des cantons. Depuis d'ailleurs, le nombre d'avortements légaux a pratiquement abaissé de 25%. Si des grands progrès ont été effectués en un quart de siècle, estime Anne-Marie Rey, présidente de l'Union Suisse pour décriminaliser l'avortement. Cependant, la loi restrictive de 42 est toujours là, qui punit l'avortement de prison. Bien sûr, aucune condamnation n'a été prononcée depuis 88. La loi n'est donc plus qu'une façade. Il faut l'enlever. En outre, bien sûr, la pratique libérale n'étant pas légalisée, on peut toujours craindre un retour en arrière. Ou les convictions d'un médecin qui puisse modifier les pratiques jusqu'alors en vigueur dans un établissement. La mise sous tutelle des femmes en matière d'avortement est également inacceptable. En effet, la loi exige que deux médecins donnent le feu vert à l'avortement pour que celui-ci ne soit pas considéré comme illégal. Les femmes doivent avoir le droit à l'autodétermination car elles seules peuvent décider en dernier ressort. Et pour terminer, une petite nouvelle du Caire. Le Caire, l'Égypte, est complètement traumatisée par l'apparition d'un chewing-gum aphrodisiaque qui déchaîne les passions. L'opinion publique est préoccupée par une affaire rocambolesque qui mêle désordre des sens et complot politique. Tout a commencé par une rumeur née il y a 2 semaines à Mansoura au nord-ouest. La consommation d'une certaine marque de chewing-gum inciterait les jeunes filles au libertinage. Ça a fini par une intervention au Parlement. Un député s'est levé pour demander l'interdiction de ce chewing-gum. Il semblerait que le nombre des agressions sexuelles s'est multiplié dans la région et que les femmes seraient souvent à l'origine des délits. Le député a déclaré d'ailleurs que cette gomme vendue dans les épiceries viendrait d'Israël. Les journaux se sont précipités sur l'histoire jusqu'à évoquer un complot israélien visant à déstabiliser la société égyptienne. Le Mossad, le service secret, est même accusé de distribuer ce mystérieux chewing-gum. C'est une catastrophe menaçant la sécurité de la société égyptienne, selon les journaux. Le dossier a en tout cas été confié à une commission parlementaire avec 5 ministères qui s'en occupent. L'industrie, la recherche scientifique, la santé, l'approvisionnement et même l'intérieur. Les analyses n'ont rien donné, mais pour l'instant, les vendeurs ont été mis en prison. Voilà, c'était les nouvelles sur la pleine lune. Dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Yeah.
lumière avait changé. Question-réponse, sans réponse, qu'un grand silence. Coup dans le vide, une absence. La couleur des mémoires s'efface. La couleur des mémoires s'efface pour un soir. La couleur des mémoires. La couleur des mémoires t'échappe.